RCF.
Les chemins de l'école, le magazine de l'enseignement catholique en Franche-Comté.
Bonjour, Mireille Besser, vous êtes directrice interdiocésaine de l'enseignement catholique franc-comtois. Merci de nous accueillir dans vos locaux pour nous faire découvrir l'envers du décor, de l'autre côté du miroir, ou j'ose, de l'autre côté du tableau, hein, puisque la direction interdiocésaine, c'est avant tout, j'allais dire, l'enseignement catholique franc-comtois. Alors, qu'est-ce que la DIEC, Mireille Besser, et j'ose, un rectorat bis pour l'enseignement catholique ?
Bonjour, merci déjà d'être là, heureuse de vous accueillir. Donc, la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique, rectorat bis, c'est en tout cas un lieu, une instance qui coordonne l'ensemble des établissements, en sachant que c'est surtout, on est tous au service du projet, et service du projet de l'enseignement catholique, faire en sorte que nous épaulions dans des secteurs différents pour que justement l'école catholique dans la Franche-Comté puisse bien vivre et rayonner.
Alors on va partir un peu à la découverte, je vais dire, des différents services, des différentes missions. On fera quelques petits zooms, quelques petits points sur la paye, hein, puisque vous avez la gestion de plus de 600 personnels. On en parlera, on y reviendra. On parlera aussi du recrutement des enseignants, une des missions phares de l'enseignement catholique. Et vous, en tant que directrice interdiocésaine, quelle est votre mission particulière, Mireille Besser ?
Moi, justement, ma mission, c'est de faire en sorte de fédérer l'ensemble des établissements autour du projet qui nous anime, celui qui et comment il s'adapte là où nous nous trouvons. Donc, avec l'histoire de l'enseignement catholique en Franche-Comté, chaque région, chaque diocèse a son histoire. Et comment, justement, quand vous parliez des services de paye, en fait, comment on a mis un service de paye en place, c'est aussi comment on peut avoir des établissements plus petits. Et c'est comment il y a cette culture de mutualiser, d'entraide, et comment, justement, l'enseignement catholique est présent sur tout le territoire, et comment on soutient les plus petits, et comment justement on se développe et comment on va au plus proche des jeunes, parce que notre mission c'est pour les jeunes, comment on puisse les accueillir là où ils se trouvent.
Puisque vous avez effectivement la gestion, j'allais dire, de la maternelle, hein, 2 ans et demi, 3 ans pour les plus jeunes, jusqu'à l'enseignement supérieur, puisqu'on oublie aussi, c'est aussi les CFA, c'est aussi l'apprentissage, Mireille Besser.
Tout à fait. Et là, en ce moment, il y a le développement de l'apprentissage et nous y sommes très favorables parce que c'est comment on offre aux jeunes une autre façon d'apprendre. Et nous voyons que pour certains jeunes, que ça correspond vraiment à leurs envies déjà. Et aussi, c'est très enrichissant parce que c'est enrichissant aussi bien pour les jeunes que pour l'ensemble de l'établissement, là où ils sont, aussi bien entre jeunes, voir qu'on apprend de façon différente et comment l'apprentissage amène d'autres formes d'intelligence et d'autres rapports au monde du travail. Et tout ce qui est motivation, tout ce qui est projection, tout ce qui est comment on donne du sens. Et l'apprentissage peut être un très bon moyen pour donner du sens à sa vie, tout simplement.
Avec une particularité, hein, c'est-à-dire que, j'allais dire, la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique, eh bien, colle à l'académie, j'allais dire, franc-comtoise. Mais je dis autre particularité, vous avez effectivement plusieurs diocèses et 3 évêques.
Oui, et c'est vraiment une spécificité, et ça c'est une vraie richesse, où nos évêques ont voulu ça depuis très longtemps, hein, depuis 35 ans, une direction interdiocésaine. Et cela veut dire que chaque diocèse garde son orientation pastorale, mais la volonté de porter ensemble au niveau de l'enseignement catholique. Et ça, c'est une force parce que ça veut dire que tout le temps, les décisions vont être prises ensemble. Et donc, du coup, vous voyez bien, en termes d'orientation, on va vers comment on porte cet enseignement catholique, comment on est au plus proche des jeunes et comment on les amène justement dans cette formation intégrale qui fait notre caractère propre.
Allez, partons un petit peu à la découverte, à l'envers du décor de la DIEC. Combien de personnes travaillent à la DIEC franc-comtoise ?
Nous avons 21 personnes qui sont vraiment salariées, on va dire, au niveau de la DIEC. Ça veut pas dire, ça représente une quinzaine de personnes à temps plein. On a des personnes qui sont là vraiment sur des plus courtes, sur des plus courts temps. Et puis, nous avons aussi des enseignants qui sont rattachés à la DIEC parce qu'ils ont des missions spécifiques. Donc, ils ont le statut d'enseignant avec des missions au service de l'ensemble de l'interdiocèse. Par exemple, enseignant référent, enseignant au niveau des élèves allophones, enseignant autour du numérique, de l'innovation numérique. Et puis, nous avons aussi la formation, donc des enseignants qui sont rattachés à la formation.
Mireille Bessière, donc plusieurs personnes qui travaillent, peut-être une personne, vous le disiez également. Donc, c'est, j'allais dire, des missions quand même qui sont complémentaires, mais très différentes aussi.
Ah oui, nous avons des missions très au niveau de la DIEC. Hein. Nous avons effectivement tout ce qui est au niveau éducatif, tout ce qui est au niveau pédagogique, donc tout ce qui est autour de déjà de la tutelle, comment on accompagne les établissements par rapport à cette tutelle, la tutelle
Alors,
vivante.
En quelques mots, puisqu'on a l'occasion de refaire un focus, si je puis dire, dans le cadre de cette année scolaire. C'est quoi une tutelle ?
Alors, une tutelle, et là, je vais parler de la tutelle diocésaine, parce que dans les établissements, soit il y a une tutelle diocésaine, soit c'est une tutelle congréganiste, ou dans l'histoire, l'établissement, il a été soit institué par un prêtre localement, par une paroisse, où c'était une congrégation qui a créé l'établissement. Et à partir de là, tout au long de l'histoire, cette tutelle, elle porte le projet qui est propre à cet établissement-là. Et la tutelle, elle a la mission d'aller recruter un chef d'établissement et d'accompagner la communauté éducative par rapport au projet global, vraiment pastoral, de l'établissement.
Donc c'est une mission aussi importante, enfin, on le disait dans l'enseignement catholique, on l'oublie, mais à la fois, je veux dire, si on devait résumer une association, une entreprise, une tutelle diocésaine, c'est ce qui fait aussi la richesse de l'enseignement catholique aujourd'hui.
Oui, je crois que c'est vraiment, et on va rajouter aussi tout ce qui est associatif et bénévole, qui est vraiment une des spécificités. Et en même temps, vous voyez, c'est tout un système qui est très souple, qui nous permet une grande souplesse. En même temps, c'est comment on va chercher des compétences très variées, de part et d'autre, et comment on arrive à travailler ensemble. Comment ce qui nous est cher et ce qui m'est cher, c'est cette responsabilité en partage. Comment on va de plus en plus loin dans où chacun a sa part, chacun apporte ce qu'il a de meilleur en lui, et comment, en interférence avec les autres, on crée quelque chose de bien plus que le 1 plus 1 qui fait 2, on est sur le 1 plus 1 qui fait 3. Et ça, dans nos communautés, c'est pour ça qu'on parle de communauté éducative, où le jeune fait partie de la communauté éducative, comme le bénévole, comme le salarié, comme le parent. Et du coup, de voir cette vision partagée de l'ensemble, où forcément, là où nous nous trouvons, nous en avons un angle de vue, comment on croise ces angles de vue pour faire en sorte que nous puissions accompagner au mieux les jeunes. Notre visée, c'est celle-ci, et cet accompagnement global de la personne.
Vous parlez aussi de la mutualisation, la richesse des établissements, des petits établissements, des grands établissements. C'est ce qui fait corps, c'est ce qui fait aussi l'enseignement catholique aujourd'hui.
Et justement, l'enseignement catholique en Franche-Comté, vraiment cette volonté de faire corps. Il n'y a pas les petits d'un côté, les gros de l'autre, je caricature exprès, c'est vraiment une communauté d'établissements. Et comment on porte ensemble le projet de l'enseignement catholique, avec chacun à sa spécificité. On parlait de tutelle tout à l'heure, chaque tutelle a sa spécificité. Mais ce qui fait toute la couleur, on va dire que c'est la mosaïque, qui fait que l'enseignement catholique, ils fédèrent ensemble et ils portent ensemble en Franche-Comté. Et ça, c'est ancré dans notre culture. Parce que nous savons que, justement, si nous voulons répondre au mieux à notre mission, c'est ensemble qu'on va la porter plus loin. Peut-être qu'on met un peu plus de temps, mais par contre, on va plus loin. Et puis surtout, on porte le sens ensemble. Ça ne veut pas dire que tout est rose, c'est pas ça la question. Parce que justement, il y a des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais par contre, c'est comment nous nous adaptons par rapport à ces difficultés et comment nous les portons ensemble. D'où tout ce qui peut être solidarité, qui est très fort, comment on mutualise, comment on achète ensemble pour faire en sorte que on soit au plus proche de chacun.
Alors justement, Myriam Bessière, je vous propose de partir à la découverte, j'allais dire, des autres bureaux, de ce qui fait aussi la richesse de la DIEC. On va écouter Isabelle Fèvre et on partira aussi à la découverte du service Paye avec Florence Queux. Chez nous, on se retrouve juste après, toujours dans votre bureau. Alors, on n'a pas parlé de votre bureau, mais un bureau qui est très ouvert, hein, avec au centre une table où on peut justement partager un peu le maître mot, si je puis dire, aussi de la DIEC.
C'est cela. Associer la façon de travailler au sens que je porte et à la vision que je porte de l'enseignement catholique.
Écoutez RCF sur le 87.6 à Saint-Vite.
Isabelle Fèvre, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous retrouver pour les chemins de l'école. Aujourd'hui, on vous présente un peu l'envers du décor de la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Alors, vous n'êtes pas très loin, vous êtes à un bureau, si je puis dire, à une porte du bureau de Mireille Bessière. Et vous êtes en charge du recrutement, des recrutements pluriels, puisque vous allez recruter des enseignants, je peux dire pour des contrats définitifs, comme on est dans le jargon, et des enseignants pour suppléer, pour remplacer également. On va peut-être commencer par ce cas de figure-là. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de matières qui sont sous tension aujourd'hui, Isabelle Fèvre.
Oui, effectivement. Donc on peut dire qu'on a besoin très souvent de remplaçants. On est donc en recherche en permanence de personnes qui ont envie d'exercer un métier qui a du sens, un métier de partage, de transmission. Et pour ça, il y a un métier qui est formidable qui s'appelle le métier d'enseignant. Et donc on cherche des personnes pour enseigner soit dans les écoles primaires ou maternelles, soit dans les collèges et lycées.
Recrutement justement d'enseignants primaires, secondaires, c'est la même problématique, c'est les mêmes tensions aujourd'hui, Isabelle Fèvre.
Alors, presque, oui, ça devient malheureusement la même problématique. On pourrait penser qu'il est plus facile de recruter des enseignants dans le premier degré parce que le niveau requis est au minimum une licence et quelle que soit la licence. Pour le second degré, c'est la licence également, mais là, il faut qu'on ait une licence en lien avec la discipline qu'on enseigne. Je donne un exemple. Si on veut enseigner en mathématiques, il faut une licence de maths. Si on veut enseigner en anglais, il faut une licence d'anglais. Alors que pour enseigner dans le premier degré, quelle que soit la licence, tout convient.
Et c'est un recrutement, j'allais dire, assez massif. Vous avez des besoins, j'allais dire, quotidiens, importants.
C'est ça, tout à fait. C'est au jour le jour, on apprend qu'un enseignant est absent dans sa classe. Et donc, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer le plus vite possible. L'objectif est toujours nos élèves. Donc l'idée, c'est de trouver très vite quelqu'un qui puisse prendre en charge la classe de l'enseignant absent.
Et comment ça se passe? Donc je suis intéressé, je prends votre contact, votre attache, je peux aller voir aussi ou être sollicité par un établissement?
Alors oui, mais effectivement les personnes doivent venir vers moi, doivent s'inscrire, je dois vérifier effectivement leur diplôme, tout leur dossier. Pour le second degré, on doit aussi demander l'avis, c'est le protocole de l'inspecteur de la discipline qui étudie aussi la candidature et qui nous confirme si la personne a bien les conditions pour enseigner.
Donc ça c'est la partie administrative et puis ensuite j'allais dire très rapidement la partie terrain. La personne va se retrouver, j'allais dire, devant des élèves, c'est bien ça?
Voilà, tout à fait. Donc, soit on a un petit peu de temps et je peux rencontrer la personne qui souhaite démarrer dans ce métier et puis on peut échanger sur le projet. Mais comme on le disait tout à l'heure, comme on est en pénurie, la plupart du temps, les personnes partent directement sur le terrain. Et là, il y a toujours, mais vraiment toujours quelqu'un dans nos établissements qui accueille le suppléant qui arrive et puis qui est accompagné soit par le chef d'établissement, mais aussi par l'équipe, parce que c'est avant tout un travail d'équipe.
Vous parliez de projet, l'importance aussi de rencontrer la personne, puisque l'objectif ensuite, c'est peut-être de la garder et puis qu'elle passe un concours dans l'enseignement privé, c'est bien ça?
C'est ça, et c'est exactement le cheminement, c'est-à-dire que les personnes souvent souhaitent démarrer par des suppléances, pour vérifier si le métier leur convient, parce que ça c'est très important. Et puis, si effectivement ce métier plaît, alors effectivement, nous, on ne pourra que les conseiller de passer le concours pour devenir enseignant titulaire.
Alors, comment ça se passe, justement? Il faut passer un concours comme dans le public?
Voilà, donc c'est effectivement... Il faut passer soit le concours CRPE, si on veut être professeur des écoles, ou le concours CAFEP, qui est l'équivalent du CAPES pour l'enseignement public, si on veut enseigner dans les collèges-lycées. Alors, les missions, on va dire, tombent bien, parce qu'on est dans la période où on doit s'inscrire au concours, et les personnes intéressées ont jusqu'au 17 novembre pour s'inscrire au concours sur un site qui est www.devenirenseignant.gouv.
Donc ça, c'est pour devenir enseignant, j'allais dire, définitivement.
C'est ça.
Et si vous désirez effectivement faire des remplacements, là, c'est vraiment... Il faut prendre votre attache.
Voilà.
On va peut-être donner votre mail, un numéro de téléphone peut-être à la DIEC.
Alors, mon téléphone, c'est le 03 81 25 01 91. Et l'adresse mail, isabelle.fevre, donc F-A-I-V-R-E, @scolafc.org.
Isabelle Fèvre, merci beaucoup d'avoir participé au Chemin de l'École.
Merci à vous.
Les chemins de l'école sur RCF, Damien Martinez.
Florence Cuche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge, donc gestionnaire de la paie des établissements. Alors ça, en général, on ne le sait pas forcément, mais vous gérez, je dirais, une partie assez importante des paies des personnels OGEC. Vous pouvez peut-être préciser aussi ce qu'on entend par personnel OGEC, Florence Cuche.
Oui, donc tout à fait. Donc en fait, nous sommes trois collègues à travailler au service de la paie, donc à la DIEC. Et donc, nous établissons les bulletins de paie des personnels des établissements, donc ce qu'on appelle les personnels OGEC. C'est aussi bien la paie du chef d'établissement, de la secrétaire, du cuisinier, du surveillant, de la femme de ménage. Donc ça représente 600 payes pour toute la Franche-Comté et avec, enfin, répartis sur 47 établissements. Donc voilà, on a des petits établissements, on a des gros établissements. Et c'est vrai que ce service est très important. Il a été délégué par... c'était une volonté des chefs d'établissement de déléguer ce service à la DIEC parce que c'est quand même très particulier, très technique et ça évolue constamment. Faut être...
On peut donner des exemples quand vous dites que ça évolue, on va dire... Voilà,
oui, par exemple, là, en octobre, on a eu l'augmentation du SMIC. Il y a des choses très concrètes et il y a aussi des choses par rapport à notre fédération, la FNOGEC, où on a à mettre en place sur les bulletins de paye. Par exemple, l'augmentation de l'indice, des choses très, très précises. Donc, on est vraiment, on a vraiment une veille, on va dire, d'informations à avoir. Il faut être très au clair.
Avec des métiers, j'allais dire, complémentaires, mais différents. Enfin, vous le disiez, donc vous avez un panel très large.
Oui, tout à fait. Alors, par contre, on a des métiers très différents, mais par contre, nous n'avons qu'une seule convention collective. Donc, ce qui est déjà plus simple. Parce que
vous simplifiez peut-être un peu la vie, on va dire.
Simplifie la tâche, effectivement, pour l'application. Donc, on a une convention collective pour tous les établissements catholiques. Et il y a aussi une convention collective pour les établissements agricoles. Parce que dans nos payes, on a aussi des établissements agricoles pour lesquels on établit les bulletins de paye.
Avec une gestion au quotidien, mais peut-être le marteler.
C'est-à-dire que
la personne n'a pas forcément de contact avec vous. Alors vous êtes là, j'allais dire, en appui des établissements.
Tout à fait. Donc en fait, nous, on est vraiment en lien avec les chefs d'établissement et les comptables principalement, qui nous donnent les informations sur les salariés. Le salarié ne contacte pas le service paye, en fait. Lui, il a juste son bulletin de paye à la fin du mois. Mais nous sommes en lien vraiment très étroit avec les établissements. Donc c'est eux qui nous fournissent les arrêts de travail, qui nous fournissent tous les événements qui peuvent se passer dans un mois pour un salarié, en fait.
On va faire un petit point sur la Covid. Comment ça s'est passé quand nous étions Covid ? Les salaires ont toujours été versés.
Les salaires ont toujours été versés.
Il y a eu des
versés.
Inquiétudes, je pense, dans le service à ce moment-là, un peu partout.
Ça a été très compliqué et très tendu, effectivement, parce qu'on a dû gérer donc les arrêts de travail Covid, où on n'avait pas l'habitude de gérer de cette façon-là, avec des procédures bien particulières. Donc, on était en lien aussi avec la CPAM à ce moment-là. On a eu aussi la mise en place de l'activité partielle. Et ça, c'était une grande nouveauté dans nos établissements parce qu'on n'avait jamais eu à mettre en place l'activité partielle. Donc ça aussi, ça a été des moments importants pendant la Covid et on a été très, très occupés effectivement au service paye.
Et vous parliez également de la veille, j'allais dire, comptable et juridique qui est très importante.
Oui, alors là, voilà, on a une veille importante à avoir. Donc on a la chance d'avoir donc notre fédération au niveau national qui s'appelle la FNOGEC, qui nous met à disposition énormément de documents. Et on a aussi au service de la DIEC, donc Marie, notre juriste, avec qui on travaille étroitement sur toutes les situations qu'on peut rencontrer.
Florence Cluche, merci beaucoup d'avoir participé au Chemin de l'École.
Je vous en prie, bonne journée à vous, au revoir.
Vous écoutez RCF à Val-d'Oie sur le 88.4.
Alors on est de retour dans votre bureau. Merci Mireille Besser de nous avoir accueilli au sein de la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Un des rôles aussi, c'est ce lien étroit avec les établissements et avec les chefs d'établissement.
Oui, justement dans l'enseignement catholique, le chef d'établissement va ouvrir un établissement. Bien évidemment, c'est l'évêque ou l'archevêque qui en est garant, hein, mais c'est le chef d'établissement, chaque fois qu'il arrive, qu'il ouvre. Il y en a un qui ferme et l'autre qui ouvre. Donc, nous voyons que l'éducation part de l'établissement. Et ensuite, c'est comment on va vers une verticalité, comme je parlais tout à l'heure, en termes de cohérence de l'ensemble et en termes de solidarité. Et d'où, nous, notre travail, c'est comment on articule l'ensemble et comment on travaille avec les chefs d'établissement en particulier, chefs d'établissement, les présidents d'OGEC, mais comment on fait en sorte que, ensemble, on prend les décisions pour justement l'avenir de l'enseignement catholique. Comment nous le voyons, comment nous nous adaptons à l'environnement. Et cela, ça ne peut qu'être avec les pilotes de l'établissement et en particulier le chef d'établissement.
Alors vous me facilitez la transition, si je puis dire, et puis la fin aussi de cette émission, et les perspectives et l'avenir demain qui commence à s'écrire dès aujourd'hui.
Oui, nous sommes en plein travail prospectif justement sur l'enseignement catholique, hein, de façon globale, en se disant... qu'est-ce qui manquerait si l'enseignement catholique n'existait pas? Et c'est se dire, nous, en Franche-Comté, se dire, bah, justement, quelles sont nos orientations? Donc, nous avons une démarche qui allie aussi bien en termes d'état des lieux, essayer de voir vraiment l'enseignement catholique tel qu'il est, pas forcément par rapport à notre filtre. Donc c'est pour ça que nous faisons en sorte d'avoir une collecte de l'ensemble des représentations, du vécu de l'enseignement catholique, aussi bien en termes de vécu qu'en termes de données chiffrées. Aussi, nous avons comment nous voyons les orientations politiques, comment nous les croisons avec les orientations politiques du national, comment ça forme un tout, et aussi comment ça passe par les actions. Parce que si on attend, je pense que vraiment, c'est la prospection, c'est comment ça se vit au quotidien et comment on transforme petit à petit.
Mireille Besser, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission dans un mois pour une autre thématique des chemins de l'école sur RCF en Franche-Comté.
Un grand merci et puis vous êtes toujours les bienvenus à la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique.
Merci à vous.